Zanzibar à Limoilou, de Bamako à Lévis. Ushuaïa à Québec, de Tokyo à New York.
No country alone can solve this challenge.
On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical.
Du 191 rue Saint-Paul à Québec, à nous la terre.
Bon mardi tout le monde, cette semaine à l'émission... Le féminisme, une idéologie pour survivre à la violence, avec Christine Lévy, historienne spécialiste des mouvements politiques au Japon. Vous écoutez À nous la terre. Cette semaine, les femmes peuvent-elles être soldates? Ou plutôt, les femmes devraient-elles devenir soldates, voire soldates de la guerre révolutionnaire? Si les idéologues les plus conservateurs de l'ordre patriarcal diraient que les femmes ne peuvent pas devenir soldates, qu'elles ne peuvent pas être porteuses de la violence nécessaire à l'exercice de la guerre, un large mouvement de féministes aux États-Unis réussira à prouver le contraire. Oui, les femmes peuvent faire la guerre, elles ne sont pas pacifistes par essence. Aujourd'hui, les armées d'une grande partie des pays du monde comptent une proportion de femmes plus grande que jamais auparavant. Les images issues de la prison d'Abu Ghraib, où des soldates américaines ont été prises en photo dans des scènes de complète humiliation de prisonniers irakiens, montrent d'ailleurs qu'elles peuvent effectivement être d'une violence égale à celle des hommes. Mais est-ce là vraiment l'objectif du féminisme? Pour Ueno Shizuku, féministe et sociologue japonaise née en 1948 à Kanazawa, la réponse est bel et bien négative. Oui, les femmes peuvent devenir soldates. Non, les femmes ne devraient pas devenir soldates, et même des soldates révolutionnaires. Elles devraient critiquer la violence de l'armée, l'accès à la pleine citoyenneté à travers l'exercice de la guerre et le droit secret qu'ont les hommes, soldats et donc pleinement citoyens, d'exercer la violence sur leurs femmes et leurs enfants. Son analyse est riche de l'histoire des mobilisations de celles qui ont été appelées les femmes de réconfort, les femmes qui ont été enrôlées pour répondre aux désirs sexuels des soldats de l'armée japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Riche aussi des analyses historiques sur le front domestique, c'est-à-dire les activités menées par les révolutionnaires et des femmes en leur sein. Pour elle, en intégrant les armées, qu'elles soient révolutionnaires ou conventionnelles, les femmes cherchent à devenir comme les hommes, c'est-à-dire à se rendre capables d'exercer la violence. Le féminisme, selon elle, doit plutôt être une idéologie pour survivre à la violence, une idéologie pour les faibles qui ne veulent pas nier leur faiblesse en devenant comme les puissants. Nous en parlons avec Christine Lévy, qui a édité la première édition traduction française d'un ouvrage d'Ueno Shizuku.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour en parler. Peut-être juste corriger le front domestique, c'est l'ensemble des activités qui étaient faites et qui étaient exercées par les femmes pendant la guerre. Donc, il y a comme eu un mouvement historique pour réaffirmer l'importance de la place des femmes dans la guerre. Il y a juste une petite erreur de lecture. Donc, Christine Lévy, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Bordeaux-Montaigne en France. Vous êtes spécialiste des mouvements anarchistes, socialistes et féministes au Japon et vous avez publié plusieurs ouvrages sur ce dernier thème, tels que globalisation et féminisme au Japon, genre et modernité au Japon, et fin 2021, vous avez dirigé l'édition d'une idéologie pour survivre, débat féministe sur violence et genre au Japon, d'Ueno Shizuku. Ce livre-là, c'est une traduction d'Ueno Shizuku, peut-être la première traduction majeure du féminisme japonais en français. Merci beaucoup d'avoir accepté d'en parler avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Et en effet, je pense que c'est la première traduction d'une féministe japonaise contemporaine, puisqu'il y a eu des travaux sur des auteurs féministes, mais des poétesses ou littéraires. Et il y a beaucoup de romancières aussi qui sont traduites, qu'on pourrait qualifier de féministes, mais qui ne sont pas forcément militantes. Donc, c'est, je pense, une lacune qu'on comble et que j'espère que j'aurai l'occasion de présenter aussi d'autres féministes, aussi bien par le passé qu'actuel. Alors, pourquoi Ueno Chizuko ? Parce que c'est vraiment une figure centrale des débats publics, intellectuels au Japon. Et c'est fait une place importante, comme je l'explique dans l'introduction. Il y a une certaine reconnaissance de sa qualité de sociologue, puisqu'elle a été nommée professeure à l'université de Tokyo, Todai, qui est l'université la plus prestigieuse du Japon. Donc, c'était sans précédent. Et comme je le dis, malheureusement, c'est un peu sans succession non plus, puisqu'elle est partie à la retraite. Elle a fondé, donc, en partant à la retraite, une ONG, Women Action Network, qui fonctionne donc maintenant depuis plus de 10 ans. Et qui est très très actif à la fois pour les informations, pour aussi créer une bibliothèque numérique des différentes revues, de ce qu'on appelle les revues minikomi zashi en japonais. Et donc ça, c'est quand même un travail très intéressant qui nous permettra aussi d'avoir des ressources, accès aux ressources facilement pour étudier les différents mouvements féministes depuis les années 70. Alors, il y en a eu d'autres avant, mais elle est vraiment une héritière des mouvements féministes japonais des années 70, puisqu'elle était étudiante à la fin des années 60. Et donc, elle était aussi assez active dans le mouvement étudiant qui était en effervescence à cette époque au Japon. Le mouvement étudiant était très, très fort jusqu'en 69. Après, il a commencé un peu à reculer. Et puis, après 72, il a reculé énormément, entre autres à cause d'une affaire qui a défrayé la chronique, l'affaire de l'armée rouge unifiée, avec ses révélations vraiment macabres qui a découragé beaucoup de militants. Mais en réalité, donc, cet événement qui était très spectaculaire, parce qu'il s'agit d'un groupe de révolutionnaires qui s'étaient réfugiés à la montagne pour s'entraîner pour la révolution armée, et on a découvert, donc, après une prise d'otage et un siège qui a duré un certain nombre de jours, une dizaine de jours, avec 5 militants. On a découvert ensuite, par la suite, qu'il y avait eu des massacres, suite aux autocritiques, une pratique d'autocritique, hein, 14 militants qui avaient été torturés et tués dans des séances d'autocritique. Donc ça, c'est quelque chose qui a traumatisé quand même l'extrême gauche. Et elle le dit d'ailleurs dans son ouvrage aussi, hein, elle le dit, voilà, je fais partie de ceux qui ne voulaient pas entendre, qui ne voulaient pas voir, c'est comme un traumatisme qu'on essaie d'écarter. D'où cette réflexion aussi sur la violence révolutionnaire. Elle ne critique pas la violence révolutionnaire en soi. Ce qu'elle critique, c'est plutôt l'aspiration à la violence ou le culte de la violence qui a pu exister dans ces groupes. Elle ne donne pas un jugement moral sur le fait que ces groupes étaient violents. C'est pas son but. C'était plus par rapport à la place des femmes dans ces mouvements, dans ces courants, comme elle pose la question de la place des femmes dans la lutte de libération nationale, qui en fait, finalement, avait affiché l'émancipation des femmes. Et puis, une fois que l'indépendance était acquise, aussitôt, les femmes devaient retourner dans les foyers. Hein. Donc, c'est un peu c'est au constat de ces situations qu'elle interroge aussi le mécanisme de la violence dans ces mouvements révolutionnaires. Mais il faut voir un peu le contexte japonais où actuellement il n'y a pas de mouvement révolutionnaire du tout. Ça lui serait difficile d'avoir un point de vue sur cette question, en tout cas dans le contexte japonais. Dans le contexte international, c'est un peu une autre affaire. Donc,
On voit que les thèmes que Ueno Chizuko aborde dans son œuvre sont très liés à l'histoire du Japon moderne. Vous avez dit que c'était une héritière du féminisme des années 70, oui. Des décennies qui ont suivi les années 60. Elle aborde la question de la violence révolutionnaire, mais aussi la question de la guerre qui a été très, très marquante dans l'histoire du Japon. Et c'est toutes des questions qu'elle analyse depuis le point de vue des femmes. Je ne sais pas si vous pourriez nous en dire un peu sur le point de vue particulier qu'elle essaie de, de faire valoir sur ces événements-là.
En fait, si je prends un historique, elle a eu une phase de féminisme marxiste, assez influencée un peu par Christine Delphi, mais aussi d'autres féministes marxistes américaines au début des années 80, et après beaucoup plus par le féminisme postmoderne. Mais l'élément, si vous voulez, l'événement vraiment qui a été fondateur d'un nouveau courant féministe au Japon, en dehors de l'échelle internationale et des débats sur le genre, c'est les revendications des anciennes femmes de réconfort. Un euphémisme, c'était un terme japonais qui était utilisé pour désigner les esclaves sexuelles, celles qui étaient enrôlées de force ou par la ruse ou par l'achat. Il y a des filles qui étaient vendues par les familles. Donc, puisque les détracteurs de ces mouvements disent, ben oui, ben, c'est pas nous, c'est les pères qui les vendaient. En fait, c'est quand même pas une raison non plus de qui légitime quoi que ce soit. Donc, il y avait différentes formes, mais quand même, ça a été un enrôlement de masse. C'est-à-dire qu'en particulier, il y a eu, après, avec l'extension de la guerre, il y en a eu partout, dans toutes les zones occupées par l'armée japonaise, mais quand même, le point de départ, c'est un enrôlement de masse des Coréennes, des jeunes filles qui étaient des familles pauvres, enfin de toutes celles qu'ils pouvaient, que l'armée pouvait recruter, enrôler ou emmener de force, et qu'ils emmenaient en Mandchourie le plus souvent. Donc il y avait beaucoup de filles très jeunes, des filles plus âgées aussi. Et donc cette réalité, elle était connue au Japon avant. Elle était connue, et il y a eu surtout un travail d'un journaliste anticolonialiste qui, après la reprise des relations diplomatiques, après 65, entre le Japon et la Corée du Sud, a publié un ouvrage après des années d'enquête sur ces femmes. Donc le premier ouvrage, c'est vraiment celui qui sert de base. Lui, il est estimé à peu près à 80 000, après on a estimé que c'était davantage. Il a décrit un peu le mécanisme, enfin comment l'armée impériale japonaise avait exploité toutes ces femmes. Mais en revanche, cet ouvrage s'est vendu à 500 000 exemplaires, mais ça n'a pas suscité de réaction. En revanche, en 91, quand il y a une ancienne femme de réconfort elle-même qui vient au Japon pour faire une conférence de presse et pour intenter un procès à l'État japonais avec 32 autres personnes, des anciens déportés coréens, là, ça a une autre écho. Et donc ça, c'est à l'origine d'un mouvement au départ où il y a eu quand même un soutien d'une partie de l'opinion japonaise à leurs revendications. Donc elle arrive en 91 et en 93-95, il y a une petite période d'alternance politique qui fait qu'il y a un ministre socialiste et donc qui fait une déclaration officielle pour reconnaître les crimes de guerre du Japon et aussi une déclaration du porte-parole pour reconnaître que l'armée impériale japonaise était impliquée directement ou indirectement dans le transfert, dans l'enrôlement, etc. Et donc, il y a eu un certain soutien, puis après le PLD qui est au pouvoir est revenu et il y a eu vraiment un retour du bâton et un backlash contre leurs revendications. Et donc, cette question est devenue objet de polémiques très importantes. Et Ueno Chizuko, sur cette question, lors de la conférence de Pékin en 95, avait tenu avec d'autres donc femmes asiatiques et les coréennes en particulier, un atelier où elle tenait une position dans laquelle elle disait que, où elle critiquait tout nationalisme, c'est-à-dire qu'il soit d'un pays impérialiste ou d'un pays colonisé. Et donc là, ça a créé des polémiques. Et donc, comme elle le dit, quand elle dit qu'elle a commencé, d'ailleurs, dans son introduction, elle dit qu'elle a commencé cette réflexion en 91, quand Kim Hak-soon est venu au Japon pour dénoncer donc, et pour présenter les revendications de ces anciennes femmes de réconfort. Donc, après, il y aura un comité qui va se constituer en Corée, etc. Puis, elle dit non, en fait, en réalité, c'est pendant la guerre du Vietnam. Donc, quand elle réfléchit, elle dit c'est la guerre du Vietnam qui nous a amené à réfléchir sur la violence. Et donc, dans les années 60, c'était l'idée qu'il y avait une légitimité à répondre à la violence par la violence. Et ensuite, il y a eu cette affaire, cette question des anciennes femmes de réconfort, où là, il y avait un nouveau aspect qui était introduit dans la question de la violence, qui était la question du genre. Donc, la mémoire de guerre et la question du genre, quelque chose qui était complètement oublié. Et donc, à partir de là, il réfléchit sur ce que cette question apportait, mais sa position qui est de dire que le nationalisme est critiquable, qu'il soit de pays impérialiste ou d'un pays colonisé, parce que ça crée une barrière et que finalement ça ne permet pas la solidarité féministe, va entraîner des désaccords avec celles qui soutiennent les anciennes femmes de réconfort et leurs revendications. Et donc sa réflexion, cet ouvrage, si vous voulez, c'est un prolongement aussi de cette réflexion du rapport à l'État, à la violence. C'est pour ça que la lecture du livre peut paraître peut-être quelquefois un petit peu compliquée par moment. Elle le dit elle-même, le premier chapitre est assez théorique parce que c'est vrai qu'elle se réfère aussi aux théoriciennes américaines surtout. Et là, elle pose la question effectivement de la participation des femmes à la violence. Bon, elle dit que ça existe, de toute façon, par essence, elles ne sont pas féministes, l'histoire le prouve, l'histoire mondiale le prouve, l'histoire du Japon le prouve, puisqu'elles ont aussi assisté, il y a eu le soutien des féminismes d'avant-guerre à la guerre d'agression du Japon. Donc, cette idée, c'est que sur le plan historique, les femmes ne sont pas pacifistes par essence, ça s'est montré. Donc la question qui reste, c'est est-ce qu'elles doivent, au nom de l'égalité, participer de façon égale. Donc pour elle, a priori, sa réponse est non. Mais parce qu'elle a aussi, c'est vrai, une position féministe qui est souvent de dire on ne veut pas devenir comme les hommes. Et ça, elle reprend le courant féministe des années 70, par exemple, même par rapport à l'armée rouge unifiée, quand elle cite Tanaka Mitsu, qui est un peu une icône du féminisme, qui avait rencontré Nagata Hidoko, celle qui était la dirigeante, avec un autre dirigeant, et qui avait été à l'initiative de ces séances d'autocritique. Elle disait de Nagata Hidoko elle disait d'elle-même qu'elle aurait pu devenir une Nagata Hidoko si elle avait voulu devenir comme elle, une révolutionnaire parfaite, une soldate révolutionnaire. Donc c'est l'idée que le culte de la violence va amener forcément un rapport de force qui fait basculer dans le camp de l'oppresseur. Il y a quand même cette idée, je pense, chez Ueno Tsuko. C'est la raison aussi pour laquelle, quand elle parle de la violence des femmes, elle n'aborde pas trop les... parce qu'il n'y a pas énormément de mouvements violents chez les femmes en tant que femmes ou en tant que féministes, c'est très rare. Il y a de la violence en tant que femmes qui participent à des guerres, mais pas en tant que féministes, d'une part. Mais elle insiste beaucoup aussi, par exemple, sur la violence des blanches à l'égard des noirs, ou donc les féministes qui ont soutenu la guerre pendant la guerre. C'est vrai que quand elle parle de la violence des femmes, elle va plutôt citer tous ces exemples où les femmes se sont montrées violentes et oppressive. Alors peut-être que de ce point de vue, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des exemples où les femmes ont été violentes pour se libérer de l'oppression et qui sont des exemples aussi valables, peut-être? Ça, c'est une question qu'on peut se poser.
C'est intéressant, je pense, parce qu'un des exemples majeurs, si je pense peut-être au féminisme de ces décennies-là en France, c'est la question des Amazones qui a été explorée par Monique Wittig, qui est en fait peut-être l'exemple d'une société de femmes guerrières, en fait, qui est prise comme un des symboles de la possibilité de la libération des femmes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la question de l'autodéfense féministe, par exemple, est très centrale dans les mouvements qui existent à la fois en France, mais aussi dans plusieurs pays d'Amérique latine, où il y a fréquemment des émeutes de femmes contre les meurtres des femmes ou le viol qui sont tout à fait normalisés. Je trouvais que c'était intéressant peut-être d'interroger ces mouvements-là à la lumière des théories de Shizuko.
Au Japon, peut-être qu'on est dans une situation différente, dans le sens où la question de la reconnaissance des violences faites aux femmes est assez récente. Du point de vue étatique, il n'y a pas du tout une protection. Il y a même eu les scandales de 2019. Il y a eu 4 procès au mois de mars qui ont fait scandale parce qu'il s'agissait donc de procès où les hommes ont été acquittés. L'un, c'était un père qui violait sa fille depuis qu'elle avait 13 ans. Il a été acquitté parce que les faits ont été reconnus par le tribunal, mais ils ont estimé que la fille ne s'était pas suffisamment défendue. Parce que il y a eu un changement de loi en 2007 déjà, parce que si la fille ne s'est pas suffisamment défendue, il n'y a pas viol, il n'y avait pas viol. C'était pas reconnu. Donc là, c'était ça. Il y avait un cas, par exemple, un cadre qui avait saoulé une employée et qui l'avait violée ensuite. Il a été acquitté. Il y a eu un cas aussi, un homme qui a agressé, qui a tapé une femme, qui l'a violentée, puis ensuite qui l'a violée. Et là, il a été acquitté parce qu'il n'avait pas compris que sa torpeur voulait dire le refus. Et le quatrième, j'ai un peu oublié, c'est aussi une fille. Oui, c'est une fille c'était son père, donc à l'âge de 12 ans, et le tribunal ne l'a pas reconnu parce que ses propos étaient un peu incohérents. Voilà. Donc, mais il y a eu quatre procès qui ont fait scandale parce que ça s'est passé dans le même mois avec les hommes acquittés. Alors après, il y a eu un appel. Mais à partir de là, il y a eu un appel à des mouvements, à une manifestation Me Too With You. Et où il y a des. Donc depuis le 11 du mois, tous les mois, il y a une manifestation. Mais ce n'est pas des émeutes, hein, c'est des manifestations avec des prises de parole, etc. Alors peut-être que si vous voulez, sur le plan de la défense au Japon, c'est encore. Un stade où il s'agit de faire reconnaître ces violences d'une façon un peu plus réelle, quoi. Parce que la loi sur le viol, c'était la loi de 1907, donc il y a eu en 2007 une modification, mais encore pas suffisante, puisque il faut que la femme se soit suffisamment débattue pour qu'il y ait eu vraiment violence.
Donc, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans le concept de fuite qu'elle mettait de l'avant plutôt que dans le concept de la contre-violence pour se défendre de l'agression. Elle dit là, brièvement que personne ne conseillerait à une femme qui vit de la violence domestique de simplement répondre coup pour coup. La seule réponse qui peut sauver une femme de sa situation de violence, c'est la fuite. Puis j'avais l'impression qu'il y avait peut-être l'idée d'essayer d'utiliser ça comme un exemple paradigmatique dans les cas de violence, peut-être dans les cas de la violence de l'État aussi, peut-être, ou de la violence de la guerre, mais de ne pas tenter de répondre à la violence par la violence, mais d'essayer d'opérer sur un plan différent en prenant la fuite, justement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que...
Oui, oui, elle a fait quelque chose de paradigmatique. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut l'appliquer... en fait, dans le cadre domestique, c'est évident que c'est d'abord la fuite qui permet... Mais encore, la fuite n'est possible que si, quand on fuit, on a soit un cadre de solidarité, soit quelque chose qui peut vous soutenir. Parce que s'il y a tant de femmes qui ne fuient pas, bon, l'aliénation, mais il y a aussi le fait que souvent, elles sont bloquées sur le plan matériel, qu'elles ne voient pas d'issue, elles ne savent pas comment fuir aussi. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est intéressant ce qu'elle dit, c'est la fuite, et surtout d'appuyer sur le fait que dans le féminisme, ce qui est important, c'est de mettre un peu l'accent sur la vulnérabilité et comment on peut dépasser cette vulnérabilité. Et son propos, c'est vrai, c'est de dire ce n'est pas en devenant celui qui opprime, ce n'est pas en devenant exactement celui qui opprime, parce que le plus souvent, quand on devient comme celui qui opprime, on opprime quelqu'un d'autre. Donc c'est ça son idée, je pense. C'est vrai que c'est la question qui se pose pour elle, comment affronter la violence. Alors, ce qui me paraît très intéressant dans ce qu'elle dit aussi, c'est que souvent, par exemple, c'est à la page 114, hein, quand elle dit les féministes américaines, quand elles disent au nom de l'égalité, elles revendiquent de devenir des soldats au combat comme les autres, Elle dit qu'elle parle comme des nationalistes américaines plutôt que comme des féministes. Donc ça, c'est un point de vue, je pense, qui est intéressant parce que c'est effectivement le problème. Bon, ben, pourquoi il y a une armée? À quoi sert l'armée? Etc. Donc je pense que de ce point de vue, ces interrogations sont enrichissantes, intéressantes à examiner parce que c'est vrai que le féminisme, son point de naissance, c'est quand même un point de vue mondial. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est dans le cadre démocratique, mais il a une origine, c'est une pensée, c'est par rapport aux droits des femmes elles-mêmes, sans question de nationalité. Et donc, c'est vrai que la solidarité féministe, c'est la réponse à l'oppression. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les mouvements féministes. Je pense que c'est une base importante. Et quand elle pose la question du féminisme, c'est vrai que c'est la solidarité féministe qui peut permettre de faire avancer et de se détacher de l'État, puisque la question est là. Je pense que de ce point de vue, voilà, les... même s'il y a peut-être des passages où on peut se poser des questions, est-ce que ça peut marcher ou pas, cette affirmation est quand même assez centrale.
Et ça lui permet... C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on cherche un peu dans la lecture de ce livre-là à un certain moment. Effectivement, le féminisme a une dynamique transnationale très forte. Il y a la question de la reconnaissance de la condition des femmes partout à travers le monde. Mais on a l'impression que parfois, cette question-là de la communauté des femmes est pas très présente, en fait, dans ces analyses. Puis elle se tourne plutôt vers la logique de la criminalisation dans certains passages. Je pense qu'on pourrait peut-être aller à la pause pour l'instant puis parler de cette question-là au retour. Je pense que ça va être très intéressant.
Très bien.
On est de retour après cette pause pour parler avec Christine Lévy de l'œuvre de Ueno Shizuku qui traite notamment de communisme et de féminisme au Japon. Donc la question de l'intégration des femmes dans les structures de pouvoir, suivant l'idée qu'elles pourraient être mieux représentées ou encore qu'elles pourraient changer la nature du pouvoir lui-même, est une position assez dominante dans le féminisme qui a accès à la parole publique de façon générale. Ueno Shizuku a une perspective assez différente sur la question. Elle va même jusqu'à interroger, sans nécessairement la nier, la revendication d'accès à la pleine citoyenneté pour les femmes. Quelle est l'importance, en fait, de cette idée de citoyenneté dans son projet intellectuel, Christine Lévy? On vous entend pas. Attendez un instant.
Dans cet ouvrage... Oui. Dans cet ouvrage, elle interroge surtout la nature de la citoyenneté d'un point de vue historique pour expliquer quel est le rapport entre l'État et la citoyenneté. Elle revient là-dessus pour montrer que si les femmes étaient considérées comme des femmes, des citoyens de seconde zone, elle rappelle Olympe de Gouges, enfin tous les différents mouvements, hein, les exclusions, qu'impliquait la citoyenneté. On ne peut pas dire qu'elle soit contre la pleine citoyenneté, ce n'est pas ça le problème. Je pense qu'elle veut pointer du doigt l'idée que la citoyenneté, à partir du moment où c'est lié à l'État et à l'armée, pose des problèmes. Hein. C'est ça qu'elle interroge et surtout, elle reprend un peu les analyses, par exemple, de Linda Kerber pour dire qu'il y a des zones de non-droit, en fait, que cette citoyenneté crée aussi des zones de non-droit avec des polarités. Donc, d'un côté, l'État qui va prendre en charge la violence institutionnelle et la violence entre les États, et donc où les citoyens sont invités. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, hein, je pense, pour les guerres, mais c'est, historiquement, c'est tout à fait vrai, à faire la guerre à d'autres nations. Hein. Elle rappelle d'ailleurs que être citoyen en acceptant l'idée du service militaire, ce n'est pas être prêt à mourir pour la patrie, mais être prêt à tuer pour la patrie. Hein. Elle rappelle que c'est l'expression, il faudrait la changer dans ce sens. Il y a une forme de criminalisation de l'État de ce côté, dans ce pôle, et l'autre pôle, c'est la famille parce que d'un point de vue historique, l'individu, en fait, ce ne sont pas tous les êtres humains, mais le chef de famille. Voilà. L'homme qui est le chef de famille, et tous les autres membres de la famille ne sont pas vraiment des individus de plein droit, donc c'est une zone de non-droit. Voilà. Donc c'est un peu cette idée qu'elle reprend aux analystes féministes américaines pour remettre en cause la nature de la citoyenneté pour réclamer un autre type de citoyenneté. Hein. Je crois que quand même elle ne remet pas en cause l'idée qu'il faut l'égalité, mais elle remet en cause l'idée que l'égalité serait l'identité des rôles dans le sens militaire, par exemple. Ça, c'est vrai qu'elle elle le refuse. Dans ce sens, elle a un aspect un peu de féminisme différentialiste qu'elle a en partie, parce que très souvent, c'est quelque chose qu'elle répète souvent, on ne veut pas devenir comme des hommes. Mmh. Parce que ce ne sont pas des modèles, forcément.
Effectivement, donc, on lit justement dans son livre que la question de la citoyenneté au sein des États modernes est intimement liée, en fait, à la disponibilité donc pour faire la guerre. Et c'est ce que vous dites. Oui, voilà. Que les citoyens sont les hommes d'une même nation qui acceptent de ne pas s'entretuer, mais plutôt de faire la guerre aux hommes des autres
aux
nations.
Autres.
Et ils obtiennent aussi un droit implicite à la violence domestique, à abuser des femmes. Comment s'articulent ces
alors,
idées dans
ça,
la pensée
oui,
douanière?
Ça, c'est le point de vue qu'elle défend, oui. C'est-à-dire que, parce que c'est une zone de non-droit, en fait. Hein. Je ne sais pas si parler de droit serait vraiment exact, mais je crois que c'est l'idée, c'est surtout que c'est une zone de non-droit. Et c'est vrai que c'était effectivement, parce que c'est pas seulement du point de vue voilà théorique, mais du point de vue pratique, hein, l'administration, la police, jusqu'il y a assez peu de temps, ne voulait jamais se mêler des affaires de violence au sein de la famille. Hein. Donc maintenant, au Japon, on parle beaucoup des cas de maltraitance d'enfants, mais avant, on les taisait. De même pour la violence à l'égard des femmes, on les taisait. Et les batailles sont encore assez difficiles parce qu'il y a l'exemple de Ito Shiori, la journaliste qui a été quand même obligée d'aller à Londres parce qu'elle avait commencé à faire un procès et elle ne pouvait plus continuer à travailler au Japon. Donc elle a gagné là le procès, mais c'est quand même après 4 ans de lutte et au prix d'un exil dans un autre pays pour pouvoir continuer à vivre de sa profession. Donc il y a un retard quand même dans les faits au Japon par rapport à la dénonciation des violences. Et avant, même avant, il y a 20 ans, on disait non, au Japon, il n'y a pas de violence. Enfin, c'est des sociétés où on avait tendance à nier les faits, à ne pas en parler. C'est souvent... c'est quand même encore une société où on ne doit pas perdre la face et donc on ne parle pas des malheurs. C'est un peu une tendance.
Il y a quelque chose de très intéressant dans le fait qu'elle reprend un peu une manière d'écrire qui est propre assez aux féministes françaises peut-être, mais de dire que il y a un enjeu dans l'abolition de la distinction entre la sphère publique et la sphère privée, puisque oui. La sphère privée relève justement de cette opération-là par laquelle l'État permet aux hommes d'abuser des femmes.
Oui, bon, c'est vraiment le féminisme des années 70, c'est l'influence, enfin, elle reprend les idées qui étaient développées dans les années 70, le personnel et politique, et le fait que la séparation entre la sphère publique et la sphère privée est le résultat de la création de la sphère publique. On crée une sphère publique pour créer une sphère privée où il y aura finalement, dans les faits, d'autres lois internes à cette sphère privée, où l'oppression n'est pas condamnée. Donc, c'est effectivement cette idée. Et ça fonctionne, dans le cas du Japon, c'est vrai que ça fonctionne assez de cette manière.
C'est assez intéressant parce que ça ouvre un peu la question de qu'est-ce qui peut remplacer la sphère privée. Puis je pense que c'est peut-être une question à laquelle je voudrais qu'on revienne. On l'a abordé un peu dans la première partie de l'émission, mais c'est toute la question de la possibilité d'une pensée de la communauté qui pourrait peut-être venir prendre la place d'une pensée de la criminalisation. Parce que d'un côté, Shizuko parle la nécessité de criminaliser la violence. Et de oui. l'autre côté, elle s'oppose à l'étatisation de la sphère privée aussi en même temps.
Oui, c'est vrai. Alors, quand elle dit criminaliser, elle ne pense pas trop en termes juridiques, mais en termes de reconnaissance sociale comme fait criminel. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une zone de non-droit. C'est un peu cette idée. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment dans son ouvrage la question des prisons n'est pas abordée. Hein. C'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qui rentre en ligne de compte. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements des prisonniers au Japon. Il y a des associations contre la peine de mort comme Amnesty International ou d'autres groupes. Hein. Puis il y a aussi les avocats, bien sûr. Il y a des associations d'avocats qui luttent contre la peine de mort depuis longtemps. Mais je ne connais pas vraiment des mouvements par rapport à la question de la prison, enfin un mouvement féministe sur cette question. C'est peut-être un angle mort actuellement, en tout cas au Japon. Il y a les mouvements féministes chez les handicapés, par exemple. Ça, c'est assez récent, parce qu'au Japon, il y avait beaucoup de mouvements d'handicapés depuis les années 60, ou même avant, mais qui étaient tous dirigés par des hommes et qui étaient assez antiféministes pour une bonne part d'entre eux. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que par rapport aux prisons, je ne connais pas, actuellement, je ne connais pas trop de mouvements sur ces questions.
Et Shizuko propose justement ce pont-là entre les handicapés, les enfants, condition des femmes. Qui se regrouperaient tous sous l'égide de ne pas vouloir nécessairement accéder à la force que les hommes typiquement là, exercent sur eux. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée que le féminisme peut rester une pensée des faibles qui ne veulent pas nécessairement nier cette part d'eux-mêmes pour accéder à la domination.
Oui, c'est la reconnaissance des êtres tels qu'ils sont et la possibilité pour ces êtres-là d'exister tels qu'ils sont, socialement, parce qu'ils existent, la question n'est pas là. Mais l'absence de reconnaissance sociale de ces situations font qu'ils se retrouvent encore plus vulnérables, parce qu'ils ne sont pas du tout reconnus socialement. Donc, l'idée, c'est surtout celle-là, c'est la reconnaissance sociale de la position de toutes ces personnes, comme étant des personnes, bien sûr, à part entière, avec tous les droits, etc. Mais en tant qu'êtres qui ne sont pas forcément dans l'illusion de la force. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Je pense que c'est intéressant, oui. Mais ça ne vient pas que d'elle. Je pense que c'est quelque chose qui est lié au mouvement féministe en général. C'est aussi, je pense, une volonté d'alliance. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, au Japon, dans les mouvements des handicapés étaient contre l'avortement, il y avait un dirigeant de mouvement d'handicapés qui avait écrit un livre contre sa mère. Donc les mères étaient souvent accusées parce que c'était elles qui devaient s'occuper des enfants handicapés. Les hommes travaillaient, ils ne s'en occupaient pas du tout. Et donc il y avait beaucoup d'accusations contre les mères. Et donc là, il y a aussi, à mon avis, une volonté d'alliance, de changement de perspective dans les mouvements d'handicapés pour qu'il y ait une autre vision des rapports hommes-femmes aussi. Je pense que c'est un point qui est important.
Est-ce qu'il y a une réception qui est envisageable en France pour ce genre d'idée, vous pensez? Avec l'apparition d'une première traduction du féminisme japonais, est-ce qu'il y a de la place pour ce genre d'idée-là en France en ce moment? Comment vous imaginez
que les milieux féministes... Je pense qu'il y a la place pour une réflexion autour de la question historique, la question de la place de l'armée. Bon, en France, ce n'est pas tellement un débat. Hein. C'est vrai que c'est pas tellement débattu. Ce n'est pas du tout comme aux États-Unis. Mais il y a peut-être, c'est peut-être un ouvrage qui peut faire réfléchir aussi sur une réflexion critique de la position d'un pays dominant et comment les féministes se situent par rapport au féminisme d'autres pays Oui, je pense que ça peut apporter des éléments de réflexion assez intéressants. Sur la question des handicapés, je pense quand même qu'en France aussi, il y a une réflexion maintenant. Il y a des mouvements autour de ces questions, je pense.
C'est une idée qui vient de m'apparaître comme ça, mais il me semble que l'idée d'empuissancement est une idée qui est très centrale en ce moment dans les mouvements féministes. J'ai l'impression qu'il y a moyen d'interroger peut-être cette idée-là ou peut-être sa centralité du point de vue de la pensée de Shizuko puis de son idée d'une pensée pour survivre à la violence, pour s'opposer à la violence, pour même s'opposer à la puissance même. Possiblement.
Oui, je vais réfléchir à votre question. En fait, je pense que c'était un moyen que j'ai vu de faire connaître un petit peu l'état des débats féministes au Japon. Et je pense que la différence, si vous voulez, c'est que au Japon, on n'est pas forcément dans les oppositions entre il y a des oppositions, bien sûr, irréconciliables, etc. Mais quand on voit l'évolution, par exemple, de quelqu'un comme Ueno Shizuko, qui était plutôt marxiste, après postmoderne, aujourd'hui qui pose d'autres problèmes, il y a une sorte de flexibilité, d'ouverture aussi aux différentes théories. Et ça, c'est un élément que je trouvais intéressant, dans la mesure où il ne s'agit pas seulement d'asseoir une position académique et d'être dans tel camp du point de vue académique, parce qu'il y a aussi un côté un peu d'un camp académique hein, qu'on va construire et qu'on va garder un peu comme un précaré. Et chez elle, il y a une évolution. Donc, cet ouvrage, il n'est pas tout récent, il date de 2006, donc il y a d'autres questions qui se posent depuis. Mais je pense que sa réflexion sur la violence était intéressante parce que elle intègre différents points de vue. C'est-à-dire qu'elle intégrait voilà, la question de la violence des femmes dans le soutien à la guerre, la violence des femmes dans des mouvements révolutionnaires, la question des violences domestiques et comment répondre. Et c'est vrai qu'elle propose une réflexion à partir des réponses qu'on trouve aux violences domestiques. Est-ce que ce ne serait pas là un moyen de réponse à la violence en général hein? C'est une interrogation. La réponse ne me paraît pas évidente. Mais en tout cas, c'est une interrogation qui est intéressante par rapport à la question de la solidarité entre les personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité. Mais c'est possible à condition que la société change aussi. C'est là la question. Mais je pense que cette problématique est intéressante parce que la violence est toujours un engrenage. Et c'est vrai que c'est un... on n'est pas forcément contre la violence par principe, contre toute violence, quand il y a une légitime défense, quand il y a un mouvement important. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose... criminaliser toute action politique parce qu'il y aurait de la violence. Parce que la violence, c'est juste un moyen d'action, c'est tout, c'est pas un but.
C'est un des enjeux qui a fait polémique par rapport aux travaux de Shizuko. On le découvre un peu dans son livre, où, quand elle raconte des articles qui se sont échangés ou des interventions dans des conférences suite au 11 septembre 2001 par rapport aux questions, à la question du terrorisme.
Oui. Et donc, je pense que poser la question de la violence comme moyen d'action qui surgit et la violence comme principe révolutionnaire, par exemple, c'est autre chose, c'est deux choses différentes. Et bon, moi, de mon point de vue, ce qui est important, c'est de faire la distinction entre les deux. Dès qu'il y a un culte de la violence, à mon avis, on est sur une très mauvaise pente. Elle le montre bien et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on va rejeter toute violence pour autant c'est une question un peu plus complexe, à mon avis. Mais c'est vrai que la violence dans les relations interhumaines, elle ne résout rien. Et c'est vrai que la question de la violence dans les relations interhumaines, la violence dans les relations sociales, de classe ou de libération nationale, c'est des questions qui surgissent comme moyen de lutte à un moment donné parce que il n'y a pas d'autre solution, hein, historiquement. C'est comme ça que ça s'est passé, je pense. C'est comme ça qu'il faut l'analyser, tout en prenant conscience aussi des engrenages que ça peut effectivement entraîner et donc qu'une réflexion pour éviter la violence est quand même quelque chose de très important d'un point de vue même révolutionnaire. Je pense que c'est important, oui. Et que ça, on a...
C'est très intéressant.
Et c'est ça qu'elle pointe et que je trouve vraiment intéressant parce que c'est quelque chose voilà, qu'on avait tendance à... Enfin, que les mouvements ont eu tendance à oublier, je pense, à une époque en tout cas. Et puis, quand les mouvements reviennent, il n'y a pas de continuité dans la réflexion. Et voilà, c'est de ce point de vue, je trouvais que c'est intéressant. Et pourquoi, par exemple, le débat autour de l'affaire de l'Armée rouge unifiée qui date de 1972, donc il y a 50 ans, revient aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des mouvements. Et au Japon aussi, il y a beaucoup de précarité, il y a des mouvements. Et il y a aussi, alors au Japon... il y a beaucoup des attentats, mais pas du tout politiques. C'est-à-dire, là, il y a une clinique psychiatrique qui a brûlé, qui a été incendiée avec 27 morts. Il y a beaucoup de faits divers, de violences, de jeunes qui passent à la violence parce que, bon, voilà, il y a des déséquilibres, il y a des problèmes de société. Alors, c'est vrai que je pense que la question de la violence, elle revient en sourdine un peu.
C'est intéressant de voir dans son livre qu'on ne pose pas la question de la violence de la même manière non plus dans les mouvements politiques contemporains quand on parle de la casse ou quand on parle de justement des actions menées par la fraction Armée rouge. On ne peut pas donner non plus les mêmes réponses à cette question-là, la question de la violence, si on la prend du même point de vue pour ces deux espèces d'enjeux-là. C'est complètement irréaliste, en fait. On ne parle pas du tout de la même chose.
Oui, oui, mais dans le cas du Japon, par exemple, elle parle de la question de l'Armée rouge unifiée parce qu'il y avait des femmes, hein, et puis il y a eu, bon, je l'explique dans mon introduction, il y a eu un comité de soutien aux femmes parce que les termes utilisés par les juges étaient très misogynes, et donc il y a eu une volonté aussi de comprendre un peu ce qui s'était passé. Mais ceci étant dit, il y a eu beaucoup de violence dans les groupes d'extrême gauche au Japon. Et la plupart, beaucoup, se sont désolidarisés de ces groupes à cause de ces violences. Hein. Il y a eu plusieurs centaines de militants morts, hein, tués par des groupes rivaux.
Et à peu des violences internes à l'extrême gauche, bien sûr.
Oui, oui, mais entre groupes rivaux, entre les groupes rivaux. Et ce qui était particulier à l'Armée rouge unifiée, c'est que c'était dans le même groupe, mais en fait, c'était un groupe qui avait fusionné. Il y avait la rivalité entre deux groupes à l'origine. Et donc ça, c'est par exemple une question qui a vraiment miné le mouvement étudiant japonais. Hein. C'est ça qui a miné, parce qu'il y a eu plusieurs milliers de blessés graves et la violence, c'était absolument horrible. Hein. C'était réduire la tête de militants rivaux en bouillie, enfin à coups de main, de batte de baseball, mais enfin des violences vraiment inouïes. Ça pose problème, hein. C'est pas quelque chose qui... Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de bilan, il n'y a pas eu vraiment de réflexion. Alors c'est une question importante.
C'est devenu comme une espèce de tabou au Japon.
Oui.
Suite à ces événements-là. Oui. C'est ce dont elle parle aussi, qu'il faut une certaine distance pour arriver à parler de ces événements-là. Je pense que c'est une des choses qu'elle arrive quand même à faire d'une manière très intéressante.
Oui, je pense aussi que c'est bon, ne serait-ce que de ce point de vue, c'est intéressant. C'est intéressant aussi pour le public français de savoir, bon, ben, les féministes avant-guerre, pourquoi elles ont soutenu la guerre, qu'est-ce que ça. C'est des questions importantes. Oui. Alors, ce n'est pas peut-être pas forcément le livre le plus facile à lire, mais bon, on apprend beaucoup de choses et il y a beaucoup de questions qui sont posées. Je pense pas qu'elle apporte des réponses à toutes les questions, elle en apporte certaines. Voilà. Avec cette idée quand même que le féminisme, c'est une idéologie pour survivre. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas de mourir en héros qui va changer quelque chose, mais il faut au contraire continuer à vivre. Et de ce point de vue, je pense que c'est un message important.
Et on vous remercie énormément, Christine Lévy, en fait, d'avoir apporté effectivement quelques réponses à ces nombreuses questions aujourd'hui avec nous. Donc, on peut lire effectivement Une idéologie pour survivre, donc débat féministe sur la violence, sur violence et genre au Japon, paru aux Presses du Réel, donc fin 2021. Merci énormément d'avoir pris le temps d'échanger avec nous aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Et donc, l'émission sera en rediffusion vendredi à 11h sur les ondes de CKIA. Et vous pouvez également écouter les épisodes en balado via le contrepoint.media ou encore le anchor.fm. On vous souhaite une très belle fin de journée et à la semaine prochaine pour une autre émission.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir et peut-être à une fois.
Tokyo, New York.